Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Bourdel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour Culture Média au menu. Tous les médias, toutes les formes de culture. Aujourd'hui, par exemple, une intégrale Christophe, c'est de la musique et un jeu vidéo autour d'Astérix et Obélix. La bande des quatre sera là. Bruno Donnet pour ses télescopages, Lisa-Marie Marquez et son portrait, Marc-Antoine Lebret et ses voix et Louise Bernard pour le journal des médias et les audiences télé. Notre info média va revenir sur l'épopée d'un magazine à travers un siècle. Le magazine, c'est le nouveau détective qui fête ses 100 ans avec un peu d'avance. Un siècle à raconter la société via le prisme du fait divers, avec des titres plus sanguinolents les uns que les autres. Et pourtant, c'est François Truffaut qui disait « Le magazine Détective montre la vie telle qu'elle est ». On va vérifier cela avec sa rédactrice en chef, Julie Rigoulet. Et puis nos invités, les journalistes sportives Claire Arnoux et Clara Paban. Elles présentent l'émission emblématique de Bein Sport Salon VIP qui devient Salon VIP Champion les soirs de Champions League. Ça tombe bien, c'est justement ce soir. On a aussi un peu fait exprès. Enfin, la comédienne Isabelle Nanty à l'affiche d'un film très attendu. Que dis-je, un film, une légende, désormais une marque, Les Tuches 4, signé Olivier Barou avec Jean-Paul Rouve, Claire Nadeau, Michel Blanc, François Berléand. Il sort demain, elle sera là, Isabelle Nanty, dans une heure. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, donc Culture Média, c'est parti.
Un pour Tuche,
Tuche pour un.
Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour
et
tout le monde.
Et ça cartonne aussi en audience, Les Tuches à la télé, au sommaire.
Mais oui, je vous le disais encore hier.
De votre journal des médias.
De la triche dans Koh-Lanta, encore, oui. Les journalistes, vous verrez, l'histoire est dingue. Le steak frites de Théora, c'était rien finalement. Les journalistes finalement autorisés, ça c'est tout autre chose, à couvrir les manifestations jusqu'au bout, même en cas de dispersion. Le voyageur de retour sur France 3, mais sans Éric Cantona. Et puis, on connaît les remplaçantes des marmottes de France 3. C'est très sérieux, vous verrez.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Ils ont regardé TF1 Camping Paradis qui était au ski pour la première fois. 4 520 000 téléspectateurs, 19,9% de part d'audience. C'est le même score que à peu près que la dernière diffusion lorsqu'ils étaient au camping et à la plage. Donc finalement, ça marche pareil. Deuxième, France 2 avec la série L'Art du Crime. 3 500 000 téléspectateurs, 16,2% de part d'audience. C'est en baisse par rapport à la semaine dernière et par rapport à la semaine encore d'avant. Et puis troisième, Scène de ménage sur M6. Un tout petit score pour un prime, 2 600 000 téléspectateurs seulement, 12,6% de part d'audience, mais ça cartonne sur les FRDA, c'est la cible commerciale très importante pour M6, 23,9% de part d'audience.
Culture Média.
On commence ce journal des médias avec de nouvelles accusations de tricherie dans Koh-Lanta.
C'est le journal Le Parisien qui les révèle ce matin. Certains candidats de la saison en cours de diffusion auraient participé à des repas clandestins pendant le tournage. 4 à 5 candidats selon le journal qui choisit de ne pas dévoiler leur nom. Alors, ces aventuriers se seraient rendus chez des habitants de l'île pour manger tous les 3 jours environ.
Tous les 3 jours? Comment c'est possible?
Alors, selon Le Parisien, ça se passait les soirs de conseil lorsque les candidats se retrouvaient à dormir pas très loin des habitations. Ils attendaient que les gardiens censés les surveiller s'endorment et filaient dans la nuit chez les locaux. Un couple les aurait ainsi régulièrement accueillis pour déguster du salé, du sucré et des boissons énergisantes à gogo, d'après Le Quotidien, qui parle même de rituel. Autre technique de triche avancée par Le Parisien, elle concerne un candidat chouchou du public, Claude. Il se serait fait repérer dans la nuit par un gardien près de la tente des techniciens à la recherche de nourriture. Il faisait d'ailleurs partie des noms sortis dans la presse il y a quelques semaines lors des premiers accusations de tricherie. À l'époque, devant les caméras, Théora avait reconnu avoir demandé et obtenu de la nourriture d'un pêcheur, le steak frites dont je vous parlais en sommaire, ce qui avait entraîné son élimination. D'après la presse, il n'était pas seul. Le Parisien avait alors cité Claude et Sam.
Et alors, est-ce que la production de Koh-Lanta a réagi à ces nouvelles accusations?
Alors, elle a indiqué au Parisien être en train d'enquêter, mais n'a pour l'instant pas assez d'éléments pour confirmer ou pour infirmer les informations du journal. Elle reconnaît avoir reçu des informations orales selon lesquelles certains candidats auraient pu se nourrir ponctuellement par des moyens qui ne sont pas dans les règles de Koh-Lanta.
Dans l'actualité des médias également, le gouvernement corrige son schéma national de maintien de l'ordre et donc la place des journalistes dans les manifestations.
Les journalistes n'auront finalement pas à quitter les manifestations en cas de dispersion. Ils pourront ainsi continuer de couvrir l'événement, de faire leur travail. Ce qui n'était pas le cas dans la première version de ce schéma national de maintien de l'ordre présenté en septembre 2020. Une disposition prévoyait même l'inverse, obliger les journalistes à quitter le terrain, les lieux en cas de dispersion. Mesure à l'époque très critiquée et combattue par la profession. Et le Conseil d'État l'avait finalement censuré. Le ministère de l'Intérieur a donc revu sa copie. Dans cette nouvelle version, il est précisé que les journalistes devront quand même faire attention à là où ils se placent pour ne pas faire obstacle à l'action des forces de l'ordre. Et les reporters devront être identifiables, donc en présentant une carte de presse ou une attestation fournie par l'employeur. Ils seront autorisés à porter des équipements de protection et à circuler librement au sein des dispositifs de sécurité.
Notre focus programme du jour, c'est Le Voyageur, qui est de retour sur France 3 ce soir avec un changement de taille.
Oui, un nouveau téléfilm de cette collection policière, commencé avec Eric Cantona. Quatre films qui avaient réalisé de très bonnes audiences, hein, jusqu'à plus de 6 millions pour l'un d'entre eux. Mais Cantona a décidé d'arrêter pour des questions de planning. Pas question cependant pour France 3 de renoncer à sa série. Hein. C'est donc un autre acteur qui reprend le flambeau, Bruno Debrandt, qu'on a vu notamment dans Quin ou dans Engrenage. Il reprend le flambeau, mais pas le rôle joué par Cantona. Tom Bareski n'apparaît plus. Le nouveau personnage, c'est le capitaine Jan Kandinsky, qui a simplement croisé Tom Bareski il y a quelques années. Il décide de faire comme lui, se mettre en disponibilité de la police. Il part enquêter et tente de résoudre un meurtre non élucidé qui le hante depuis 10 ans. Alors, Bruno Debrandt nous a confié qu'il avait quand même hésité à reprendre cette série pour la continuer.
Poursuivre une série qui a déjà existé, c'est toujours assez problématique. Ensuite, moi j'ai un respect immense pour le King, que j'adore, Eric. Donc j'avais besoin de sa bénédiction d'abord pour partir au combat. Et je l'ai eu. Une fois ça réglé, avec sa bénédiction, j'ai demandé à avoir une réflexion avec la chaîne et avec la productrice et l'auteur pour dire, voilà, moi ça m'a énormément plu, le premier numéro m'a énormément plu, la présentation de la série, la suite moins. Et je voudrais qu'on s'attache à l'ADN de la série.
Voilà, et l'ADN de la série, c'est pour Bruno Debrandt un voyage déjà. Chaque épisode nous emmène dans une région. Celui-ci, c'est dans les Ardennes. Bientôt, ce sera dans les Landes. Et puis surtout, c'est retravailler ce personnage qui réfléchit vraiment au sens de son travail. Son personnage veut revenir aux fondamentaux, aider les gens, s'éloigner de la hiérarchie qui l'étouffe, de la ville aussi. D'ailleurs, il a récupéré le van et le chien d'Eric Cantona. Mais son personnage n'est pas du tout un calque.
Dans la mesure où je ne suis pas le King, je ne suis pas la bestiole Eric Cantona qui incarne le voyageur avec sa barbe et ses 6 ans de route, il fallait que je propose une réinvention du bonhomme, du concept. Et donc, on a travaillé là-dessus. On s'est amusé à faire quasiment un anti-canto, c'est-à-dire un type qui est plutôt urbain, qui ressemble à tous les gens d'aujourd'hui de la ville, dans lequel chacun peut s'identifier.
Oui, ce n'est pas Canto qui serait tombé malade dès la première nuit à dormir dans le van. Très bonne idée de le remplacer, plutôt que de le remplacer, d'introduire justement un nouveau personnage. Ça garde quand même l'esprit de la série. La greffe est très réussie. C'est à découvrir ce soir sur France 3, Le Voyageur à 21h05.
Puisqu'on parle de France 3, si vous regardez la 3 ce soir, vous remarquerez peut-être le nouvel habillage de la chaîne.
Oui, fini les marmottes qui étaient devenues des véritables stars. Et au-delà des frontières françaises, 70 millions de vues sur les réseaux sociaux, 40 une récompense internationale obtenue. Alors en fait, elles avaient fait leurs adieux cet été, après les JO, et elles viennent d'être remplacées pour les fêtes par des poules, 3 petites poules blanches au plumage soyeux et bien garni. Alors pour être précise, la race, c'est des poules soie, c'est une des plus anciennes races de poules domestiques venues de Chine, je vous dis tout. Mmh. Et puis elles ont même des petits noms, cotes, cotte et cotte. Alors, ce sont des écritures différentes pour chacune. Pourquoi les poules? On en trouve partout en France. Et puis, c'est très populaire. C'est devenu très populaire. C'est ce qu'a expliqué le directeur artistique Laurent Sauvage à Télé Loisirs.
C'est que pour Noël ou ça va rester?
Ça va rester un petit peu plus tard. Mais souvent, c'est dans ces périodes-là qu'elles apparaissent. Vous savez, c'est avant la pub ou en revenant de la pub.
Exactement.
Il y a 7 petits clips à découvrir.
Je vois très, très bien. Merci beaucoup, Louise Bernard. Toutes les infos, en plus des clips, sur la newsletter média, c'est gratuit. C'est sur europe1.fr. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, sur Europe, notre info média du jour, on va revenir sur l'épopée d'un magazine créé il y a presque 100 ans qui raconte la société telle qu'elle est, mais sous le prisme du fait divers. Ce magazine, c'est Détective, un grand livre, c'est rien de le dire, retrace un siècle de faits divers. On revient sur les grandes affaires. Nous serons avec la rédactrice en chef du nouveau Détective. Elle s'appelle Julie Rigoulet. Elle arrive.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Massacré à coups de tisonnier. Le mari infidèle enterre sa femme vivante. Ou alors, il jette sa maîtresse dans les sables mouvants. Et encore, Il attache sa femme et son rival sur les rails. Tous ces titres, on les doit à un magazine mythique, en kiosque depuis bientôt un siècle. Ce magazine, c'est Le Nouveau Détective, anciennement Détective tout court. Une référence pour les faits divers depuis la fin des années 20, avec parfois ou trop souvent le goût pour le sensationnel. Le public, en tout cas, en redemande. Et cela fait presque 100 ans que ça dure. Bonjour, Julie Rigoulet.
Bonjour.
Vous êtes la rédactrice en chef du magazine Le Nouveau Détective. Vous venez nous présenter ce livre, que dis-je, ce livre, cette Bible, Détective, un siècle de faits divers aux éditions Télémac. Ça doit bien faire dans les 2 kilos, 376 pages. Très grand format, ça fait gicler mon stylo. On a l'habitude de voir des anniversaires fêtés avec un peu d'avance dans les médias. En ce qui concerne Détective, le premier numéro a été édité le 1er novembre 1928, donc il y a 93 ans. Vous n'aviez pas la patience d'attendre 2028.
Non, on s'est dit que c'était, c'était le bon moment pour sortir ce beau livre.
Le bon moment, pourquoi ? Comment est né le projet ?
C'est l'éditeur de Téléma qui est venu nous voir. On avait déjà publié un hors-série à l'époque, au moment des 90 ans Détective, mm-hmm. où déjà on reprenait les grandes unes, les grandes affaires du siècle. Et puis là, on s'est dit, c'est bien pour les fêtes de fin d'année.
Alors juste une question, si on prend les titres un petit peu au mm-hmm. hasard, La mort lente, Marché de femmes, Dominici, le châtiment, le prophète de Satan envoûté par la drogue et l'orgie, j'ai pris au pif. Hein.
Oui.
Est-ce que c'est le bon livre à offrir à sa grand-mère pour Noël ?
Si votre grand-mère aime Détective, elle va être ravie.
Vous avez très bien compris le sens de ma question.
Oui, oui. Bah, écoutez, oui, alors je sais, on peut dire que les coupes sont un petit peu aguicheuses, ouais. Voire un peu trash pour certains. Mmh. Après, il ne faut pas oublier qu'on raconte des histoires qui sont très sombres. Mmh. Et ça reflète juste la réalité.
On va parler de l'histoire et on a presque l'impression que paradoxalement, les couves et les titres, ça s'agisse. Et puis je dois dire que pour les collectionneurs et les fans de presse, il y a le tout premier numéro de Détective qui est fourni avec le livre. Il date du 1er novembre avec à la une cet article « Chicago, la capitale du crime ». 1er novembre 1928. Comment est né ce journal, justement, dans les années 20, en 1928 ?
Alors, c'est un journal qui a été fondé par les frères Kessel, l'avocat... un avocat et Gaston Gallimard.
Ouais.
Voilà. Et donc, ils se sont dit que ce serait une bonne idée, que ça plairait forcément au public d'avoir chaque semaine des récits détaillés de crimes avec des belles photos. Mmh. Parce que voilà, à l'époque, elles étaient en plus très très belles.
Il faut dire quelque chose sur l'iconographie, c'est qu'il y a des photographies prises à l'intérieur des prétoires. C'est-à-dire que quand il y a un type qui est accusé et il y a sa femme, sa maîtresse, les gendarmes autour, il y a la photo.
Il y a la photo de ça, il y a les photos, à l'époque, plus maintenant, mais à l'époque, il y avait les photos des corps, il y avait des photos... Enfin oui, il y avait vraiment, on allait partout, en fait, et on montrait tout.
Voilà.
Et du coup, ils se sont dit... Alors, les frères Kessel, eux, le but, c'était un petit peu de dénoncer les injustices sociales qui touchaient notamment les classes populaires, dont la presse ne parlait pas à l'époque, beaucoup. Ils ont lancé ce magazine qui s'est arraché à 250 000 exemplaires dès le premier numéro.
Alors, les frères Kessel, il y en a un qui est très 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 connu puisque c'est un des plus grands écrivains de la littérature mondiale, c'est Joseph Kessel. Dans le livre, on retrouve un édito signé par lui, il est intitulé « Leçon du fait divers ». Il écrit ceci « Je crois, écrit Joseph Kessel, à la vertu du fait divers. Qu'on m'entende, je dis vertu pour état fatal mais nécessaire. Le fait divers participe à la vie sentimentale d'une nation comme l'amour ou le travail, ou plutôt, il entre dans l'essence même de l'amour et du travail. » Waouh ! On pourrait reprendre cette déclaration un siècle plus tard.
Ouais, et il disait aussi autre chose que moi j'aime beaucoup. Il disait « Le crime existe et pour s'en défendre, il vaut mieux en parler et le montrer. »
C'est la catharsis.
Voilà. Mais ce qui est intéressant, justement, vous parlez de Kessel, c'est que un peu la particularité du titre, et ce qu'on continue à faire aujourd'hui, c'est qu'évidemment, ils sont entourés de grands reporters de l'époque, de grands photographes, mais aussi de grandes plumes.
Alors, il faut le dire, il y a des textes de Francis Carco, de Paul Morand, de Macorlan.
De Simenon.
J'ignorais complètement. Mais encore, Simenon, c'est moins étonnant, puisqu'il a écrit des romans policiers, Simenon. Mais quand même, d'avoir des Paul Morand, on ne l'imagine pas là, Paul Morand.
C'était du journalisme narratif, voilà. Ils voulaient mettre la littérature au service du réel. Et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, d'ailleurs.
Sauf que l'époque a changé. Parce que j'imagine, ou alors vous avez peut-être essayé, mais jamais le Goncourt viendrait écrire des papiers pour Le Nouveau Détective, ou est-ce que...
Il est bienvenu.
Ouais. Oui, mais vous le savez très bien. Si vous leur demandez, ils vont vous dire non. Ou alors vous n'avez jamais essayé de leur demander.
Non, on n'a jamais essayé de leur demander, mais ceci dit, on a des grandes plumes dont on est très fiers. Et il y a des grandes plumes qui sont passées par Détective. Alors oui, je pourrais demander au Goncourt de venir, mais... Non, je ne suis pas... Alors, effectivement, il y en a certains qui préfèrent écrire... sans dire qu'ils écrivent pour détective.
Oui.
Mais
il y a des grands noms qui ont écrit sous pseudo pour détective.
Ouais.
Qui, par exemple, à part Philippe Dian?
Bah écoutez.
Moi je le savais pour Philippe Dian.
Bah oui, de toute façon il signe la préface du livre, donc c'est pas compliqué. Non, mais il y en a eu d'autres après qui veulent pas forcément.
Bon, vous protégez vos sources, vous avez raison. Et encore une citation, elle est en une de ce recueil. Le magazine Détective montre la vie telle qu'elle est et c'est signé François Truffaut. En un siècle, des faits divers, il y en a eu. Vous revenez sur les plus grands, sur les plus fous. Un de nos préférés à Europe, ici, c'est le mystère du pont Saint-Esprit. Tout un village du Gard plongé dans la démence collective. Et c'est le sujet d'un épisode culte de On de la raconte. Extrait.
Au total, 50 malades de l'hôpital de Pont-Saint-Esprit sont devenus complètement dingos. Et il n'y a pas que l'hôpital qui est touché. Pendant toute cette nuit de l'apocalypse, la police et les pompiers reçoivent des appels au secours.
Allô ? Mon père est barricadé dans la maison ? Il tire sur des ennemis invisibles ? Allô ? Figurez-vous que ma mère se jette contre les murs. Elle s'est cassée les côtes.
Un cauchemar ! Qu'on retrouve le lendemain, évidemment, à la une des journaux, qui publie des photos d'habitants aux yeux exorbités, aux lèvres pendantes, avec pour seule explication, ils ont le diable au corps, ou ils sont possédés. Mais qu'est-ce qui se passe à Pont-Saint-Esprit dans le Gard, durant cet été 1951 ?
Et quelle bonne question, Julie Rigoulet. Qu'est-ce qui se passe dans le Gard, à Pont-Saint-Esprit, durant cet été 51 ?
Alors nous, on avait à l'époque fait un papier, on avait même consacré une à cette affaire complètement dingue. On avait titré ça « Le pain du délire ». Et il se trouve qu'en fait, effectivement, en 1951, les gens sont devenus fous. Ils ont été pris de crises d'hallucinations. Alors ça ressemblait à une intoxication alimentaire. Au début, ces symptômes d'intoxication alimentaire. Et puis après, les gens vraiment devenaient fous, ne dormaient plus, se jetaient par les fenêtres. Enfin, il y a eu des centaines de malades. Il y a quand même eu 4 morts, donc c'est pas rien. On a accusé tout le monde. On a accusé l'Église, la SNCF, la CIA. On a accusé tout le monde pour finalement se rendre compte que, en fait, c'était la farine du pain, enfin de la boulangerie, qui avait été coupée avec une farine de seigle de mauvaise qualité. Et il y avait un espèce de champignon dans la farine qui rendait les gens malades.
Champignons hallucinogènes, le pain du délire. Et ce qui est absolument incroyable à l'époque, c'est que je montre, si vous nous regardez sur Europe1.fr, on voit les photos, on voit ce qui se passe dans la boulangerie, on voit ce qui se passe dans le laboratoire, on voit même les gens transportés sur des brancards avec les villageois autour. On trouve tout ça dans ce recueil. On va continuer à parler de détective, du nouveau détective. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Julie Rigoulet, c'est la rédactrice en chef de l'hebdo Le Nouveau Détective. Nouveau Détective qui va bientôt fêter ses 100 ans. Vous le fêtez à votre manière avec ce recueil publié chez Télémac, un siècle de faits divers, avec beaucoup, beaucoup d'histoires. Est-ce que vous-même, Julie Rigoulet, sur presque un siècle, est-ce qu'il y a une histoire qui vous a plus marqué que les autres ?
Alors, il y en a plein, évidemment. Moi, les histoires qui me touchent le plus sont celles qui concernent les morts d'enfants, forcément. Mais si j'en retenir une parmi celles que j'ai sélectionnées pour ce livre, je dirais que c'est plutôt celle du crime du métro, la mort de Laetitia Toureau en 1937. Mmh. C'est une jeune fille de 29 ans, une jeune fille de bonne famille, qui monte dans le métro à Porte de Charenton, dans le dernier wagon de la rame, première classe. Elle est toute seule, plusieurs témoins la voient monter toute seule. Les portes se ferment. Le métro démarre et moins de 90 secondes plus tard, à la station suivante, elle est retrouvée morte avec un couteau dans le cou. Et là, c'est un crime de roman extraordinaire, c'est incompréhensible. On ne sait pas ce qui s'est passé, comment un mec a pu rentrer dans cette rame, dans ce wagon, la tuer en moins de 90 secondes et s'évaporer. Et voilà, c'est le début d'une histoire incroyable. On ne l'arrêtera jamais, l'assassin, mais voilà, je trouve que c'est...
Et il y a la photo avec les gendarmes et les flaques de sang.
Exactement.
La photo d'époque, à l'époque, où on avait le droit. Enfin, on a toujours le droit de faire des photos, on n'a plus le droit de les publier, évidemment. Comment vous avez sélectionné ces histoires sur 100 ans ? Vous avez tout relu ?
On n'a pas tout relu parce que c'est quand même... il y a quand même beaucoup de bruit, il y a 93 ans d'archives. On a beaucoup feuilleté déjà les magazines. Et après, on a fait un mix entre les histoires très très connues, les grosses affaires d'Omnicis, Esnec,
Violette Nozière.
Violette Nozière, évidemment. Et puis des faits divers. Complètement oubliés ou qui sont retombés dans l'oubli, comme l'assassinat d'une épicière de la rue Lamarque dans les années 20. Enfin, voilà, des petits faits divers comme ça qui racontent une époque, un décor très particulier. Voilà, on a un peu mixé ces deux...
Alors, il y a aussi la titraille de détective. Vous êtes célèbre pour ça. Emmurée vivante avec son amant, Vous l'imaginez, une femme emmurée vivante, un dompteur jette sa maîtresse aux fauves, là aussi il faut l'imaginer, il jette sa maîtresse dans les sables mouvants, pardon de le dire, mais est-ce que toutes les histoires racontées dans Détectives sont-elles vraies? Elles sont-elles toutes aussi fortes que le titre le laisse présager?
Alors c'est toujours la question qu'on me pose. Quand oui, je dis que je travaille à Détective, on me demande toujours si toutes les histoires sont vraies. Et oui, toutes les histoires sont vraies. Alors de là, il suffit de taper les noms sur Internet, vous retrouvez toutes les histoires, il n'y a pas de problème.
Voilà, il y a plein de choses fausses sur Internet, hein, ce n'est pas un argument.
Ouais, non, mais
Internet,
bon,
ce n'est absolument pas un argument.
C'est vrai, mais c'est les grands médias, enfin vous retrouvez sur les grands médias et tout ça. Et ensuite, j'ai envie de vous dire que malheureusement, la réalité dépasse très souvent la pire des fictions. Donc voilà, non, tout est vrai. Tout est vrai.
On retrouve évidemment les histoires les plus récentes de la dernière décennie, Xavier Dupont de Ligonnès, Nordal Le Landais, sont les plus marquantes de ces 10 dernières années.
Oui.
Pour vous?
Oui, c'est très marquant, pour différentes raisons, mais c'est très marquant.
Et vous continuez d'enquêter. On avait reçu un jour un confrère à vous, son nom m'échappe, Michel Marie, qui était venu parler de l'affaire Grégory. Mmh. Il avait sorti tous les dossiers que possède Détective sur l'affaire Grégory. On a l'impression qu'ils en ont autant, que vous en avez autant que la justice elle-même.
On a 8 cartons sur l'affaire Grégory.
Vous suivez évidemment l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Mmh. Vous avez évidemment lu les numéros spéciaux de Society qui avaient fait un carton. Est-ce que vous continuez d'enquêter sur cette affaire?
Non.
Pour quelle raison?
C'est sûr que là, on se pose toujours la question de savoir s'il est mort ou vivant. Mais, non, enfin, évidemment, on suit tous les rebondissements. Quand on a arrêté le faux Dupont Ligonnès, mais le vrai Guy Joao, on était nous aussi sur les dents et on suivait le truc. Et heureusement qu'on n'était pas un quotidien, parce qu'on aurait peut-être fait les mêmes erreurs que certains. Mais sinon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'est pas... Enfin, non, on attend de voir ce qui se passe.
Alors, la vie du nouveau détective continue aujourd'hui sous votre direction. Vous en êtes la rédactrice en chef. Petite particularité, vous étiez auparavant au magazine Closer, au magazine Maxi. Comment on passe de ce genre de magazine au nouveau détective? Pourquoi ce choix?
Alors d'abord parce que les faits divers m'ont toujours intéressé. Et parce que, alors déjà, à Closer, je ne bossais pas pour le People, je bossais pour la rubrique vécue. Donc, les histoires extraordinaires qui arrivent à des gens ordinaires, ce qui est un peu le cas dans les faits divers. Et puis, après Maxi, j'ai lancé un magazine qui s'appelait Enquête, qui était déjà un magazine de faits divers, qui a vécu un petit... Voilà. Et voilà, et c'est comme ça que, doucement, je me suis...
Et on a vu vous chercher. Dans votre dernier numéro à la Une, on voit le visage d'une petite fillette avec ce titre « Giflée jusqu'à la mort, sa mère était hospitalisée, son beau-père en a profité ». Là encore, le titre est rentre-dedans. Ça se passe en Roumanie. Mmh. C'est une petite Antonia qui a été tuée sous les coups de son beau-père alors que la maman venait d'accoucher à la maternité. On voit des images, on voit les images du beau-père, on voit le beau-père qui pousse une valise avec le corps de l'enfant à l'intérieur, vous titrez un bagage nommé Antonia. Vous n'avez pas peur de publier ces photos?
Non, on n'a pas peur de publier ces photos. Alors, c'est sûr qu'on est beaucoup plus prudent quand c'est des affaires françaises. Voilà.
C'est un peu le sens de ma question.
Oui, on fait plus attention. Enfin, je ne sais pas si on fait plus attention, mais en tout cas, c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup plus de contenu, aussi bien visuel que... Voilà, dans les affaires étrangères. Les Américains ont une... Voilà, on trouve de tout. Il y a des vidéos, des textos, des photos. C'est plus simple de remplir un canard quand on a cette richesse.
Et peut-être que les Roumains font moins de procès que les Français. Merci
aussi
beaucoup d'avoir été avec nous, Julie Rigoulet. Vous êtes la rédac chef du magazine Le Nouveau Détective, magazine qu'on retrouve dans les kiosques. Et je cite à nouveau ce livre, cette somme, Détective, un siècle de faits divers. C'est aux éditions Télémac. Merci d'avoir été avec nous en direct. Dans
Merci.
Un instant, on va parler sport. On va parler de l'émission Salon VIP sur Bein Sport, magazine d'infos et de divertissement. Nous serons avec les animatrices, la journaliste Claire Arnoux et sa chroniqueuse Clara Paban. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Claire Arnoux.
Bonjour Philippe.
Vous êtes journaliste sur la chaîne Bein Sport. Vous présentez notamment l'émission Salon VIP ou VIP. Vous dites comment?
Moi je dis Salon VIP.
Alors je vais le dire pareillement.
Parce que
VIP.
J'ai un très bon accent anglais.
Vous
pouvez
entendre. Mardi, mercredi, jeudi à 18h30. Les soirs de Champions League, par exemple ce soir avec PSG Bruges, l'émission devient Salon VIP Champions.
Oui.
Vous allez nous raconter le principe. Avec vous, avec nous, Clara Paban. Bonjour.
Salut Philippe. Bonjour.
Vous êtes
tout
journaliste
monde.
À Bein Sport, chroniqueuse dans l'émission Salon VIP. Vous faites aussi partie de la production. Vous agissez aussi en coulisses, mais d'abord, Claire Arnoux, le principe de Salon VIP tous les jours, enfin du mardi, mercredi, jeudi à 18h30 sur Bein Sport.
Eh bien écoutez, c'est une émission dans laquelle on reçoit un invité, ça peut être un invité sportif de tout sport, un artiste qui est passionné de sport. Donc si c'est un sportif, évidemment toute l'heure de l'émission est dédiée à son sport, à ses goûts et à son parcours. Et si c'est un artiste, il vient nous parler de ses goûts de sport, de comment le sport a joué dans sa vie, parce que le sport a joué forcément un rôle dans beaucoup beaucoup de vie et nous fait du bien et nous aide au quotidien. Et dans la deuxième partie de cette émission, dans la seconde partie de cette émission, on parle cinéma, théâtre, musique, livres, et je crois qu'avec Clara, on partage cette même passion de la culture, mais aussi du sport.
Les invités déjà reçus, vous avez des noms en tête ?
Ouais, Richard Anconina, on a reçu David Douillet récemment, on a fait Fabio Quartararo, on était les premiers à faire une très belle émission avec
Fabio.
Je veux
dire, pour qui ne le connaît pas, c'est le champion du monde de moto GP, le premier français à avoir ce titre.
Ouais, classe.
Émeric Lompré, Christophe Beaugrand, Pascal Elbé, Tanguy Pastureau, Jean Todt,
oui,
l'ancien patron de Ferrari et le patron de la FIA.
Qui lâche la FIA là au mois de décembre.
Voilà.
Donc on l'a eu pour la fin de ses mandats et pour qui nous raconte peut-être ses nouvelles aventures après.
Et Jean Todt qui se fait rare dans les médias.
Très rare.
Alors, les soirs de match et VIP champion, c'est quoi le principe ?
Le principe, ce coup-ci, avec Clara, on va à la rencontre de légendes de foot et on leur fait parler de leur carrière, de leurs plus beaux souvenirs, du meilleur conseil qu'on leur a donné, du match vraiment qui les a marqués. On parle évidemment de Ligue des Champions avec eux parce qu'en général, ce sont des légendes qui ont gagné ou qui ont beaucoup participé à la Ligue des Champions. On en fait un programme d'une demi-heure et c'est franchement super chouette. On se régale avec les invités qu'on a et en plus on voyage. Alors quand on voyage, croyez pas, hein, on part le matin très tôt, on revient le soir, on n'a pas hyper le temps de visiter la ville.
Non mais quand même, vous allez sur place, c'est pas les gens, vous attendez pas, comme beaucoup d'émissions de télévision, que les personnes étrangères viennent à Paris, vous allez les voir sur place.
Oui, les soirs de Ligue des Champions exclusivement, on fait ça, on l'enregistre quelques temps avant quand on arrive à les cadrer. Mmh. Et ensuite c'est diffusé à 18h30,
ouais.
C'est ça ce soir.
Alors ce soir, Andoni Zubizarreta, pour qui ne le connaît pas, qui est-il ?
L'ancien directeur sportif de l'OM.
Vous êtes adressé à la bonne personne.
Ouais, mais surtout le gardien de but.
Oui,
le
fameux gardien de but.
Pour Clara, c'est d'abord...
Ma passion pour Marseille prend le dessus.
Voilà. Demain, ce sera Karl-Heinz Rummenigge, immense joueur allemand, vous pouvez le présenter.
Oh, bah, c'est celui qui nous a fait pleurer en 82, qui fait encore pleurer ceux qui n'ont pas vu France-Allemagne 82.
Alors,
moi, je n'étais pas née.
Il faut raconter. Moi, j'étais née et ça m'a traumatisé.
Voilà,
c'est la Coupe du Monde 82. Allemagne-France, on est à Séville. La France mène 3 buts à 1. Mmh. Et peu à peu, l'Allemagne revient au score. 3-2 puis 3-3. C'est dans ce match que le fameux gardien allemand Schumacher met un coup de poing dans la mâchoire de Battiston qui sort sur une civière. Finalement, ça se joue au pénalty. La France perd au péno. Cette défaite traumatise encore les Français. D'où votre question.
Il y a toujours aussi, chez les Français en France, quand on parle avec des supporters ou des amateurs de foot, toujours ce choc. Vous parliez de l'accident de Schumacher et de Battiston. Vous, aujourd'hui, au moment où on parle, quel recul vous avez pris sur ce qui s'est passé entre le gardien et le joueur français ?
Moi, je parlais avec Schumacher, je lui dis « Viens,
gehen zur Mannschaft und... »
On va dans les vestiaires des Français. Je pense qu'ils seront tristes et on va demander aussi ce qui se passait avec Battiston. Au moment, on ne savait pas qu'il était déjà à l'hôpital. J'ai dit à Tony, bon, on va à l'hôpital maintenant, mais lui, il ne voulait pas. Impossible de le convaincre. Ça aurait été un beau geste d'aller ensemble à l'hôpital, de s'informer de l'état de Battiston. Malheureusement, ça s'est passé comme ça et malheureusement, on ne peut pas changer le passé. C'est pas une belle histoire.
Même les Allemands le disent, c'est pas une belle histoire. C'est des moments forts, c'est pas en direct. Combien de temps dure le tournage ?
Ça dépend de l'invité qu'on a. Là, je vous avouerai qu'avec Karl-Heinz Rummenigge, qui est un personnage extraordinaire, j'ai joué les prolongations parce qu'il n'a rien dit, s'est laissé faire. Donc on a fait presque une heure et demie de tournage,
ouais.
C'était tellement chouette ce qu'il nous a raconté. Alors demain soir on a une version de 30 minutes, mais on en a fait une version longue de 50 minutes qui sera diffusée jeudi à 19h.
Alors là les questions sont fortes, parfois il y a des questions plus personnelles ou plus légères. Exemple, vous avez interrogé Pedro Pauleta, portugais, ancienne star du PSG, attaquant et capitaine du PSG dans les années 90-2000, extrait.
Je veux parler du triplé que vous avez marqué face au club d'Ajaccio, entraîné par Roland Courbis, qu'on aime beaucoup.
Alors, vous faites des petits sourires en coin, hein, toutes les deux. Il faut dire pourquoi Roland Courbis, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup.
Oui, depuis plus de 30 ans.
Mais dites pour quelle raison ?
Parce que c'est mon mari, le père de ma fille.
Alors, une fois qu'on sait ça, la question à Paoletta prend toute sa saveur et surtout sa réponse parce que Paoletta balance.
Je veux parler du triplé que vous avez marqué face à, au club d'Ajaccio entraîné par Roland Courbis, qu'on aime beaucoup. On a envie de savoir ce qui s'est passé derrière.
Tout de suite au début du match, je marque 1-0. J'ai fait le deuxième but. J'ai fait l'aigle des Açores comme d'habitude. Et je me rappelle qu'au troisième but que j'ai marqué, après, il est à la mi-temps, je vais descendre pour aller au vestiaire, il y avait quelqu'un qui m'a poussé dans le dos avec son pied. Et moi, je regarde derrière, et je vois le coach d'Ajaccio, M. Corbi, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, arrête, tu marques trois buts, tu fais l'aigle, tu rigoles encore, on a deux joueurs de moi. Et bon, vous avez raison. Elle était très fâchée avec J'ai bien compris que fais attention, même quand tu marques des buts, tu devrais faire toujours attention.
Alors déjà, on comprend que Roland Courbis met des coups de pied aux joueurs adverses pendant la mi-temps des matchs. Moi, j'ignorais complètement.
Alors, c'était une autre époque aussi.
Une autre époque. Il a dit quoi après? Que vous ayez passé cet extrait?
En fait, on en a parlé avant l'émission. Ouais. Et donc, j'ai dit, je t'en supplie, Pedro, tu vas en parler et on va poser la question et tu vas nous raconter ce qui s'est passé, en fait. Juste avant, on a appelé Roland, on s'est tous mis en haut-parleur et on a bien rigolé sur ça parce que Roland, évidemment, s'en rappelait. Et
mais en fait, il a validé le fait que vous le balanciez?
Oui, évidemment. Mais Roland, il n'aime pas se faire chambrer, on le sait, il est marseillais, aurait dû le savoir avant, en parlant l'État. C'est ça aussi, il cherche.
Le rôle de Clara Paban dans l'émission, parce qu'elle a un rôle beaucoup plus important que ce qui n'y paraît, on en parle juste après ça, courte pause et Culture Média revient.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle de salon VIP, c'est le mardi, le mercredi, le jeudi à 18h30 sur Bein Sport et ça devient les soirs de Champions League, donc c'est ce soir, l'émission devient Salon VIP Champion, c'est présenté par Claire Arnoux et Clara Paban. Je parlais de votre rôle dans l'émission La Quotidienne hors Ligue des Champions, vous avez plusieurs rôles.
Oui, je fais le portrait de l'invité. Que ce soit en Champions League ou en people normaux. Et avec en général des proches à qui je passe des coups de fil et qui me donnent des anecdotes de manière à ce qu'on ne les retrouve pas dans les recherches Internet. Mmh. Et puis je programme aussi tous les invités de Salon VIP, même si Claire me donne pas mal de coups de main cette année. On fait ça à deux comme deux folles.
En fait, c'est l'animatrice qui aide. La programmatrice, en général, c'est l'inverse dans les émissions.
On travaille vraiment en binôme parce que parfois, je vais lancer quelqu'un parce que j'ai plus d'affinité peut-être. Et puis au bout d'un moment, s'il ne me répond plus, je dis à Clara, vas-y, appelle.
Prends le relais et inversement. Mais je fais quand même au moins 80% de la programmation.
Voilà. Et les réseaux, ça compte. Est-ce que parfois, Roland Courbis vous aide?
Il m'a aidé pas mal au début. Parce que
ça compte pour ouvrir les portes et avoir les numéros de téléphone.
Après, c'est vrai que ça fait 30 ans que je suis avec lui. Donc forcément, tous les joueurs qu'il a eus, ça fait 30 ans d'entraînement. Mm-hmm. Et donc, j'ai beaucoup de connexions que j'avais déjà grâce à lui. Quoi.
Vous n'imaginez pas hein, quand on sort, mais tout le monde vient la voir, elle. Hein.
Ah oui.
Ah ouais, c'est un aimant à people, sportif, tout le monde.
Et est-ce qu'il y a des gens qui ne viennent pas à cause de Roland Courbis, avec qui il est encore fâché? Ou est-ce qu'il s'est réconcilié avec tout le monde?
Non, j'ai pas eu de refus, les gens l'aiment bien. Il a une grosse cote de popularité.
Et alors, puis au pire, c'est pas Clara qui appelle dans ce cas-là, c'est moi et on dit rien.
C'est malin. Vous avez une autre chronique aussi, vous êtes un petit peu la bonne Aldi de Bein Sport, racontez.
Oui. En fin d'émission, je présente des objets qui ont un rapport avec le sport, healthy ou écolo.
Healthy, c'est la santé.
Oui. Hein. Et bon, des fois, ça rate.
Ouais. Ah oui, c'est Bonaldi, c'est ce qu'on appelait l'effet Bonaldi. Ça marchait très très bien à la télé, à la répétition, et ça ne marche plus quand vous êtes en direct.
Exactement.
Pour vous, c'est pareil?
Oui, ça m'arrive, Alors, j'ai des échecs.
Ouais. Alors, un échec, par exemple, on a retrouvé une séquence, c'est un produit indispensable pour les cyclistes, c'est du savon pour les mains. On a vraiment besoin, moi qui fais du vélo, quand on a un problème de dérailleur, on remet sa chaîne, mais après... C'est de la chaîne qui est là pour résister à la pluie, pour résister au mouvement du dérailleur et des plateaux. Donc, elle est très, très collante. Comment l'enlever? Heureusement, vous avez trouvé le savon idéal. Ce jour-là, vos invités, c'était le comédien Guillaume Gouix et Marion Mésadorian. Extrait.
Un jour, je me salis les mains parce que je déraille. Alors, regardez, je me salis les doigts. Je vais essayer de ne pas faire tomber le vélo. Pas de manque.
Donc là, vous avez déraillé, là.
J'ai bien déraillé. Vous voyez mes mains? Regardez, j'ai quelque chose, c'est le savon du cycliste. C'est un savon artisanal. Qui est aux huiles de graines de cumin et au clou de giroflée. Et ça sent le clou de girofle.
Le seau d'eau, il faut l'avoir sur le
bébé. Oui, et là, je vous montre mes mains, c'est quasiment parti.
C'est pas parti du tout, c'était dégueulasse. Elle avait les doigts tout noirs, c'est pas vrai, on peut pas le montrer.
J'étais vraiment confus auprès de l'attaché de presse.
On a coupé, on va pas laisser la séquence en longueur, mais vous êtes tous partis en fou rire sur le plateau, ça marche pas du tout.
Ouais. Et ça nous est arrivé il y a pas longtemps d'ailleurs, encore une fois.
Ouais, ça arrive souvent, on rigole beaucoup.
Ça nous arrive avec les produits de Moscato, en fait.
Oui.
En fait, on a appuyé, c'est parti partout.
Vincent Moscato.
Oui.
Il a également. Alors, vous avez également aussi un choix de produit, comment dirais-je, spécial Claire Arnoux, avec des allusions sur sa vie intime.
Ouais.
Expliquez.
Bah, et là, c'est les célibataires, donc chaque fois que je peux faire un petit rapport, j'essaye de la placer, j'essaye de lui sauver sa vie privée.
Comme vous pouvez le voir, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas, ouais.
Non mais il y a une séquence absolument dingue avec Richard Anconina. Vous avez une sorte de robot masseur, une petite machine qui fait des vibrations. Comment décrire la machine et comment vous le prenez, vous, Claire ?
Ah, moi, ça me fait beaucoup rire. Je pense que Clara aussi le fait.
J'arrêterai quand elle sera en couple. Hein.
Non mais... Ouais. Je veux parce qu'on a beaucoup d'humour et vous voyez, ce que vous voyez à la télé, c'est un dixième des blagues qu'on peut se faire en préparation. On est trois vraiment sur cette émission, Clara, Benjamin Bonnet, qui est notre chef d'édition, et moi. Et je peux vous dire que les journées de prépa avec nous, c'est intense dans le travail, mais aussi dans la vanne.
Sujet beaucoup moins marrant, en mars dernier, il y a un documentaire qui a provoqué une onde de choc dans le journalisme sportif et qui a connu un retentissement mondial. « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste », c'est signé Marie Portolano. Qu'avez-vous pensé de ce documentaire et de ses conséquences ?
Moi, je trouve que c'est très bien que la parole se libère. On vit pas seulement dans le journalisme, mais dans dans tous les corps de métier, une parole se libère. Donc, c'est très bien de pouvoir écouter des victimes et d'être conscient que, en fait, l'égalité homme-femme, elle n'est pas du tout acquise et qu'il y a du harcèlement et des agressions. Donc, l'objet de ce documentaire, c'est, je trouve, très positif. Après, les conséquences. Je ne suis pas là pour les juger. Moi, je l'avais déjà dit sur une autre radio qui m'avait interrogée dessus. Je pense que c'est à la justice, en fait, de faire un travail, pas aux médias de faire le travail de la justice, en fait. Voilà.
Vous ne témoignez pas dans le documentaire parce que vous n'avez pas voulu ou parce qu'on ne vous a pas demandé ?
Parce qu'on ne m'a pas demandé.
Même question, Clara.
On ne m'a pas demandé non plus.
Et vous, que pensez-vous de ce documentaire ?
Bon, similairement comme Claire. Et je trouve que c'est très bien ce qu'elle a fait, Marie, parce qu'en attendant que la justice prenne le relais, elle a au moins fait témoigner des jeunes femmes qui ont vécu, j'ai le souvenir de celle qui est enfermée dans le noir, à qui on oblige à dire « je suis une lesbienne », mais c'est épouvantable, en fait.
Et vous-même, est-ce que vous avez déjà subi, je m'adresse à toutes les deux, des remarques sexistes dans le cadre du travail ?
J'ai envie de vous poser la question, qui n'en a pas subi, surtout ? Donc oui.
Moi j'ai peur pour celui qui va me les faire, pour la réponse qu'il va se prendre.
Voilà, Clara.
Mais moi j'ai pas tendance à me laisser faire et je peux comprendre que des filles qui soient faibles se laissent submerger par des personnes qui ont envie de les écraser. Mais c'est pas mon cas, moi.
Télescopage avec l'actualité, en mars dernier, le présentateur vedette de votre chaîne, Alexandre Ruiz, avait démissionné. Selon Mediapart, il semblerait qu'Alexandre Ruiz avait installé un climat de terreur au sein de la rédaction depuis plusieurs années. Je vais citer Le Figaro. Une accumulation de plaintes des salariés de la chaîne auprès de la direction aurait forcé cette dernière, donc la direction, à infliger un avertissement au présentateur, une mise en garde qui a précipité son départ. Est-ce que vous confirmez et est-ce que vous en avez fait les frais ?
Alors moi, je ne confirme pas du tout parce que je n'ai pas d'informations de ce type. Je ne sais pas
Vous étiez avec lui à Bein Sport.
Oui, mais personne n'est venu me voir pour me dire « je vais porter plainte auprès de la direction contre Alexandre Ruiz ». Donc ça, je n'ai pas d'informations. moi, personnellement, si vous me demandez pour moi, je n'ai jamais eu de problème avec Alexandre Ruiz. Il a été correct avec moi et j'ai eu une relation de travail normale avec lui. Donc voilà, après, pour les personnes qui ont été victimes, ça se laisse entendre et c'est à la direction de Bein Sport de faire son travail. Et visiblement, s'il y a eu une enquête, le travail a été fait, je ne sais pas.
Pareil, moi j'ai toujours eu de bons rapports avec Alexandre Ruiz. Ça s'est toujours bien passé. Maintenant, après, on n'est pas venu nous demander non plus s'il y avait un problème.
Non. On restera sur ces mots. Merci beaucoup Claire Arnoux. Merci Clara
Merci.
Pabon.
Merci,
je rappelle, Philippe. Salon VIP, c'est le mardi, le mercredi, le jeudi à
8h30. 19h,
mais
c'est 18h30 pour la Ligue des Champions.
Ça y est, je viens de comprendre. Donc ce soir, c'est 18h30, il y a PSG Bruges et l'émission devient Salon VIP Champions. Merci d'avoir
Merci
été
beaucoup,
avec
Philippe.
Nous en direct. Culture Média continue. Après les infos de 10h, vous allez retrouver les télescopages de Bruno Donnet. Ce matin, il sera question d'une publicité pour le magazine Têtu. Publicité censurée par la SNCF. Notre invitée, c'est la comédienne Isabelle Nanty. Elle est à l'affiche d'un film très attendu, saga familiale Les Tuches. C'est le 4e opus qui sort demain en salle. Et puis dans Les Indispensables, un coffret autour du chanteur Christophe et un jeu vidéo qui symbolise à merveille le combat d'irréductible gaulois. J'en dis pas plus, ça se termine par des X, l'humoriste imitateur Marc-Antoine Lebray. En fin d'émission, à tout de suite sur Europe 1.